le paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà.
Mais tout cela parce que on défend l'agriculture de type capitaliste.
D'être propriétaire en toute logique, c'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, dans Les paysans et les paysannes dans la lutte des classes, on va écouter pour commencer des extraits de la conférence qui a été donnée au printemps 2014 par des membres du collectif pour une agroécologie paysanne. Ce collectif, qui rassemble plusieurs organisations signataires, entend rappeler aux gouvernants que l'agroécologie constitue d'abord et avant tout un corpus de savoirs et de pratiques paysannes, plutôt qu'un vulgaire détournement sémantique pour requalifier l'agriculture intensive d'agroécologie à l'aide du greenwashing. Les organisations membres de ce collectif ont rédigé un communiqué dont voici juste après la lecture. À la suite de ces extraits d'intervention, dont on a piqué l'essentiel à l'émission des radioactifs et radioactifs de la radio Fréquence Paris Pluriel, on écoutera une lecture d'un texte qui s'intitule « Lettre ouverte à ceux qui ne sont responsables de rien, mais qui ont pour mission de gérer l'approvisionnement alimentaire des masses ». Ce texte a été écrit par un éleveur qui refuse de pucer son troupeau et qui a subi un contrôle administratif à la suite duquel il demande d'être désaffilié de la profession agricole. Commençons par écouter ce que dit ce communiqué du collectif pour une agroécologie paysanne.
Nous, mouvements sociaux, organisés, associatifs, syndicaux et professionnels, affirmons qu'une agroécologie paysanne existe aujourd'hui en France. Nous sommes obligés de la qualifier d'agroécologie paysanne pour la distinguer de la campagne de communication du ministère de l'Agriculture qui brandit le drapeau de l'agroécologie dans le seul but de mieux camoufler la fuite en avant de l'agriculture industrielle vers la marchandisation du vivant et la bioéconomie. En effet, les méthaniseurs industriels qui détournent la production alimentaire au profit de la poursuite du gaspillage énergétique, les semis directs avec l'herbicide Roundup et les technologies génétiques destinées à breveter les semences sont des supercheries qui sont scandaleusement inscrites sous le vocable agroécologie par ce ministère. Par ailleurs, celui-ci, tout en élaborant la loi d'orientation agricole et en se réclamant de l'agroécologie, est en train de valider une loi sur les propriétés intellectuelles qui élargit par les brevets sur les marqueurs biochimiques, moléculaires ou génétiques le pouvoir des transnationales sur tous les domaines du vivant et interdit les semences paysannes et reproductibles.
L'agroécologie paysanne est avant tout un corpus de pratiques vivantes et de mouvements sociaux avec un objectif politique commun, une agriculture sociale et écologique ancrée dans les territoires. Elle s'inclut dans un mouvement de transformation sociétale globale qui touche tous les secteurs d'activité. Énergie, transformation, commerce, transport, habitat, éducation, santé, etc. Nous critiquons l'idéologie productiviste, le modèle agro-industriel et même le concept de développement agricole. Le terme de développement est assimilé à la notion de croissance économique illimitée. Cette notion est antinomique avec le vivant dont le développement n'est pas fait que de croissance, mais est contenu par des équilibres dynamiques complexes à tous les niveaux d'organisation. Appliqué à l'agriculture, le développement est un mirage entretenu par les intrants pétrochimiques et les subventions. Le projet du ministère français perpétue un modèle agricole industriel où le travail humain est taxé, l'emploi est détruit et les intérêts du capital préservés. L'énergie fossile est subventionnée, les impacts négatifs sont à la charge de la collectivité et les bénéfices sont privatisés. Actuellement, nous avons en France 5 millions de chômeurs, dont des paysans sans terre et 500 000 agriculteurs.
C'est une situation aberrante dans un contexte de réchauffement climatique qui nécessite une réduction de la consommation des énergies fossiles et une augmentation significative de la population agricole. Or, depuis les années 80, il n'y a plus d'augmentation du rendement des cultures, mais seulement une augmentation de la consommation des énergies fossiles qui remplace le travail humain par la mécanisation, l'utilisation croissante des intrants chimiques et l'agrandissement des surfaces des exploitations. Seule aujourd'hui une réinstallation paysanne massive est capable de relever les défis écologiques, alimentaires et sociaux auxquels nous sommes toutes et tous confrontés. L'effondrement du modèle agro-industriel breton nous invite à regarder la réalité en face, plutôt que de se mettre la tête dans le sable en attendant le retour d'une croissance inaccessible. Face à la crise et à la précarité administrée, nous sommes aujourd'hui arrivés à l'heure des choix fondamentaux. La généralisation d'une agriculture écologique n'est pas hors de portée, mais constitue un véritable choix politique, allant plus loin que de simples évolutions techniques. L'agroécologie renverse la hiérarchie des savoirs en remettant en cause un académisme qui oppose savoir-faire et connaissances théoriques. Les savoirs scientifiques et techniques ne peuvent être dissociés des savoirs et des pratiques populaires. Ils en sont même l'émanation. Les premiers savoirs agronomiques ont été les savoirs et savoir-faire paysans qui n'ont cessé de s'adapter à leur environnement et aux sociétés. Les pratiques qui se revendiquent de l'agroécologie sont vivantes et au cœur des processus créatifs, culturels et sociaux. En s'opposant à la privatisation du vivant, en revendiquant la réalisation concrète des droits collectifs d'usage des communs, elles combattent un modèle économique dominant fondé sur la primauté du droit de propriété.
L'agroécologie paysanne est avant tout un outil de transformation sociale. Cette conception est partagée avec d'autres organisations paysannes et de la société civile dans le monde, et notamment la Via Campesina, dans un projet de société nécessairement basé sur la paysannerie. Nous avançons avec une main tendue vers toutes les personnes qui, par leur travail salarié, indépendant ou domestique, participent à l'économie réelle. L'objectif est de replacer l'humain et la nature au centre des préoccupations sociétales, de sortir de la dictature de l'argent et de la finance. Nous continuerons à nous retrouver pour construire les bases de nos actions, pour faire poids contre les tentatives d'encadrer, par le travestissement des mots ou les contraintes réglementaires, les initiatives populaires à finalité sociale et écologique. La première intervention est donnée par Guy Kessler qui donne la position de la Via Campesina sur l'urgence pour les sociétés paysannes de revenir à des pratiques agroécologiques.
Bonjour à toutes et à tous. La Via Campesina internationale est la principale organisation paysanne au niveau mondial implantée dans tous les continents, peut-être pas encore tous les pays de la planète. C'est une organisation de petits paysans. Depuis la réunion mondiale qu'on a faite à Maputo, donc ça fait maintenant 7 ans, je pense, l'agroécologie est le projet politique de la Via Campesina. Donc pour nous, l'agroécologie, c'est d'abord un projet de société. Ce n'est pas un empilement de techniques agricoles. On parle bien de projet de société. Concrètement, alors c'est vrai que vu depuis nos pays riches, ça surprend. 70% de la nourriture sur la planète est produite par des petits paysans qui vivent dans des économies d'agriculture, disons, locale, d'autres disent vivrières, d'autres peuvent dire familiales. Bon, ce concept, il est un peu plus flou. En grande partie, en dehors des marchés. Donc, s'il y a un problème d'alimentation aujourd'hui sur la planète, qui est d'abord un problème de répartition de la nourriture et pas du tout un problème de quantité produite, donc c'est pas du côté de l'exportation des pays riches qu'on va chercher des solutions, c'est peut-être plutôt du côté d'une meilleure organisation du travail des petits paysans. En termes de productivité, la productivité à l'hectare, quand il y a beaucoup de paysans, avec des cultures associées, l'agroforesterie, des rotations de cultures, est bien supérieure, celle de l'agroécologie, à celle des monocultures industrielles, qui ont remplacé le travail paysan par le pétrole, c'est-à-dire des engrais chimiques, des pesticides, la mécanisation, pétrole qui pose tous les problèmes que je ne vais pas vous développer. Et donc, pour la Via Campesina, c'est d'abord une question d'organisation sociale des petits paysans sur des territoires qui définit l'agroécologie. Oui, certes, on ne va pas chercher des produits chimiques de synthèse. Certes, il y a des techniques agricoles qui sont importantes. Mais ces techniques agricoles ne sont pas le fruit d'une science. On n'a pas des scientifiques qui travaillent pour des paysans pour leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Non, on a des scientifiques qui travaillent avec des paysans. Parce que l'agroécologie, c'est d'abord les pratiques des petits paysans qui, au niveau local, sont organisés dans des systèmes sociaux extrêmement productifs. Et quelles sont les bases de cette organisation sociale? La première base, c'est la transmission des savoirs de paysans à paysans, qui peuvent être accompagnés par des scientifiques et qui nous aident beaucoup, mais c'est d'abord des paysans qui ont ces savoir-faire. Et là, il y a des pratiques qui sont mises aujourd'hui en place par toutes les organisations de la Via Campesina qui consistent à ce que chaque paysan aille voir ce que font les autres paysans, échange au bord du champ. Et au bord du champ, là, il y a vraiment des pratiques qui s'échangent. Et ce qu'il y a peut-être de nouveau aujourd'hui, on peut dire, et je fais partie des gens qui peuvent dire beaucoup de mal d'Internet, on a des échanges de pratiques au niveau mondial qui se font aujourd'hui. Alors, Internet n'est pas le vecteur de l'échange de pratiques, non. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on discute et qu'on soit devant les plantes et les animaux. Mais Internet nous permet de repérer qui a des pratiques intéressantes et d'aller se rencontrer par la suite. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Il y a de l'innovation qui se fait aujourd'hui par cet échange de pratiques de paysan à paysan au niveau mondial. La deuxième chose au niveau des outils mis en place par la Via Campesina, et je vais m'arrêter là-dessus, ce sont la capitalisation de ces échanges de pratiques qui donnent naissance à des écoles d'agroécologie, où les jeunes et les jeunes d'abord, les enfants des communautés paysannes vont se former. Bon, nous avons des écoles d'agroécologie en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Il n'y a pas encore de formalisation en Europe, où la capitalisation de ces échanges de savoir est transmise aux jeunes générations qui ensuite vont mettre en place ces nouvelles pratiques. Donc, je ne vous ai pas parlé de technique, je ne vous ai pas parlé de produits chimiques de synthèse, même si on les refuse. Je vous ai parlé de l'essence de l'agroécologie, qui est l'organisation sociale des petits paysans sur des territoires. Et c'est le pari que nous devons faire peut-être aujourd'hui en France. Lorsque je suis né, nous étions peut-être 5 millions en tout cas de ruraux. Aujourd'hui, nous avons 5 millions de chômeurs et du pétrole dans les champs qui nous empoisonnent. Peut-être qu'il y aurait une solution à avoir 5 millions de paysans dans les champs en France.
On écoute maintenant Josian Palache, qui représente la Confédération paysanne et qui décortique le texte de la loi d'avenir agricole, dans lequel l'agroécologie est citée, mais détournée de ses fondements originaux.
Alors, ce terme d'agroécologie en France, on n'entendait pas spécialement bien parler. C'est à l'occasion de cette fameuse loi d'avenir qu'a pondu Le Foll qu'on s'est mis soudainement à parler vraiment, à parler d'agroécologie. Mais déjà, il faut savoir l'origine de son projet, qui est quand même un rapport de l'INRA, de certaine Marion Guillou, et qui était commandé effectivement par le ministère pour mettre en avant cette agroécologie, et qui serait bon de rappeler quelques principes qui sont élaborés là, qui peuvent permettre de nous éclairer vraiment de la différence entre ce qu'a évoqué Guy, le côté social de l'agroécologie, et le projet, la volonté du rapport Guillou de ce que doit être l'agroécologie, où il y a certainement des points positifs qui sont dedans, mais la dimension sociale qui est complètement absente. Alors, le titre qui était, c'était « Vers une agriculture doublement performante pour concilier compétitivité et respect de l'environnement ». C'est quand même assez clair d'entrée, c'est compétitivité et respect de l'environnement. On est déjà complètement en opposition au principe qu'a évoqué Guy, donc un peu le fondement, un peu de notre organisation, à ce que des organisations qui pensent, qui pratiquent l'agroécologie de près de longtemps, où effectivement le sang a un peu tourné quand on a entendu ces termes-là. Alors, quatre lignes directrices là-dedans. Sortir du dilemme encourageant la production et contrainte environnementale. Alors, qui dit production dit évidemment exportation, c'est sous-entendu, hein, pour moi. Deuxième point, capitaliser les démarches des pionniers en France et à l'international et tirer les enseignements sur les méthodes collectives d'innovation des groupes d'agriculteurs. On ne sait pas très bien où ils ont été les chercher. Je crois qu'il y en a qui pratiquaient l'agroécologie depuis très longtemps et on n'a pas l'impression que dans ce rapport, ça a été très, très valorisé. Inciter plutôt que contraindre, alors ça, peut-être, ça pourrait être effectivement positif, dans le sens où, bon, Guy nous a invoqué une solution radicale, à dire, bon, on met les chômeurs dans les champs, c'est peut-être dur, mais la question, là-dedans, c'est de pas d'accuser la problématique du développement agricole qu'on a connu 50 dernières années, c'est que, effectivement, on était sur un modèle productiviste et qu'on a poussé les paysans là-dedans. Je crois que dans cette affaire-là, c'est pas eux qu'il faut mettre en avant, c'est effectivement les choix politiques qui ont été faits. Une quatrième ligne directrice, c'est permettre une diversité des systèmes adaptés aux conditions locales, au milieu, et organiser les acteurs, remettre au centre des groupes d'agriculteurs leurs projets, leurs démarches agronomiques. Alors là, c'est peut-être certainement des bons principes dans ce qui est ce principe de l'agroécologie et les groupements d'intérêts économiques écologiques. Il y a certainement quelque chose qui peut être positif dans les démarches collectives au niveau des territoires d'aller vers des pratiques meilleures pour l'environnement. Il y a certainement des opportunités qu'il y a là-dedans, suivant les moyens qui pourraient être donnés pour avoir de l'efficacité dans ces domaines-là. Pour ce qui est de la loi d'avenir, et je dirais les incompréhensions qu'il y a par rapport au projet d'agroécologie suivant notre vision et la sienne, commence le premier, c'est la question du foncier, l'accès au foncier, ou de ce côté-là, déjà en premier, c'est au niveau des contrôles des structures, d'éviter que les structures puissent s'accaparer les terres et au détriment des possibilités d'installation. Savoir qu'il y a quand même un certain nombre de candidats à l'installation qui ne peuvent pas avoir accès au foncier, qui est monopolisé globalement par les très grosses structures. Ça, c'est un des points majeurs de la loi d'avenir qui ne prend pas en compte les principes de l'agroécologie. Un autre point non négligeable, c'est sur la question des pesticides qui ne sont pas fondamentalement remis en cause. On dit on donne presque des permis de polluer, on peut continuer à polluer, ça ne pose pas spécialement de problème. Dans son projet de loi d'avenir, là, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez incompréhensible qu'on ne puisse pas, dans un projet d'agroécologie, qu'on ne puisse pas remettre en cause très sérieusement ces pratiques d'utilisation de pesticides massifs, alors qu'on est dans un plan éco-phyto qui, normalement, d'ici 2018, il devait être de réduction de 50% des pesticides, qu'on est très, très, très loin, que pour le moment, on n'a rien avancé. Peut-être une chance pour nous de ce côté-là, c'est que le milieu médical commence à s'intéresser à ce sujet-là, qu'il y a eu une conférence à l'intérieur ici de l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps sur le fait que cette notion de qualité de l'environnement influait sur certaines maladies et que le jour où effectivement le milieu médical aura pris vraiment ou qu'il y aura des scandales, ils seront certainement plus forts encore que le sang contaminé. Effectivement, cette question-là sera remise en plus en cause. J'aurais pu parler un petit peu, ce qui nous concerne quand même, c'est la politique agricole, la PAC, aussi sur les pratiques agroécologiques, qui n'encourage vraiment pas les pratiques agroécologiques, dont une des premières, c'est la mise en place des rotations des cultures, parce qu'un des principes de l'agroécologie, quand même, c'est la rotation des cultures. Et là, il n'y a aucune mesure là-dedans. La valorisation des petites fermes, qui aussi ne sont pas aidés directement, qui méritent quand même un gros appui. Et ensuite, la prise en compte de la diversité des fermes, notamment par le fait qu'ils mettent des seuils pour pouvoir avoir droit aux primes et qui ne tiennent pas compte de la diversité qu'il peut y avoir sur les fermes aussi, qui sont une des bases de l'agroécologie. Et comme quoi, le projet qu'on a là, il faut que ce soit au niveau de la PAC un petit peu et de la loi d'avenir, il y a, par rapport à notre projet d'agroécologie, il y a vraiment une grosse différence.
Guy Kessler intervient maintenant pour décortiquer comment les pratiques d'agroécologie paysanne sont toutes criminalisées par la loi.
Je ne parlerai pas que des semences, je parlerai de l'ensemble des outils qui sont utilisés au niveau des pratiques de l'agroécologie paysanne. Peut-être pas de l'agroécologie du ministre, moi je ne vous parlerai pas de drones pour surveiller si mon champ, il y a assez d'engrais ou il n'y en a pas assez. Non, il vaut mieux mettre un paysan qui fasse le tour des champs. Il sentira beaucoup mieux ce qui se passe dans ses champs que d'acheter un drone à une société, surtout quand on sait que les drones servent aussi à tuer des gens. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que toutes les pratiques paysannes, de l'agroécologie paysanne, sont criminalisées par les lois. Et je donnerai un certain nombre d'exemples, en commençant peut-être par les préparations que nous utilisons. Si nous ne voulons pas utiliser de produits chimiques de synthèse, on peut avoir, bon, d'abord on va chercher à avoir un écosystème équilibré, mais on peut avoir de temps en temps des déséquilibres dans nos écosystèmes. Et on peut avoir ce qu'on appelle des pathogènes, qui sont peut-être plutôt des organismes compagnons de nos plantes ou de nos animaux. Il va falloir aider nos plantes et nos animaux ou nos sols se défendre, à interagir. Et pour ça, qu'est-ce qu'on utilise ? Eh bien, des préparations à base de plantes, à base de produits minéraux, certaines brutes, des purins d'ortie, des plantes médicinales, d'autres transformées, des huiles essentielles, des préparations biodynamiques ou des médicaments homéopathiques pour soigner nos animaux. Ben, imaginez-vous qu'il y a 2 mois de ça, une éleveuse de chèvres du département de la Drôme s'est vue retirer ses aides de la politique agricole parce qu'elle utilisait des plantes médicinales pour soigner ses chèvres. On n'a pas le droit d'utiliser des plantes médicinales pour soigner des chèvres si on n'a pas une ordonnance du vétérinaire, parce que les plantes médicinales n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Un autre agriculteur du département du Tarn s'est vu refuser ses aides de la politique agricole parce qu'il avait utilisé des granules homéopathiques qui sont vendues pour nous soigner, nous, dans les pharmacies, pour soigner ses brebis. Vous avez tous entendu parler du purin d'ortie. Sachez qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser du vinaigre pour soigner les salades. On soigne les plantes avec du vinaigre, c'est une petite vertu insecticide, et on s'en sert aussi pour d'autres choses. Mais non, vous vous mettez du vinaigre dans votre salade, mais nous, on n'a pas le droit d'utiliser du vinaigre pour soigner nos salades. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché comme produit phytopharmaceutique, ils appellent ça. Moi, j'appelle ça un pesticide. On n'a pas le droit d'utiliser du sucre, de l'eau avec du sucre pour mettre sur des pommiers. C'est interdit parce qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Alors, c'est quoi ces histoires d'autorisation de mise sur le marché ? Des normes, des produits qui sont stabilisés. Un purin de plante, ce n'est pas stabilisé, suivant quand c'est que vous l'avez ramassé, ça fermente, ça bouge. Allez me stabiliser un granule homéopathique, on vous dit qu'il n'y a rien dedans, mais ça, c'est emmerdant, ça marche, même s'il n'y a rien dedans. Qui ont une action reproductible, ça n'a pas une action reproductible, ça a une action différente suivant chaque écosystème. Donc, au niveau technique, on ne peut pas avoir l'autorisation de mise sur le marché. Et en plus, ce sont des dossiers qui ont une telle coûte que si vous ne déposez pas un brevet dessus, vous ne pouvez pas amortir le coût du dossier. Et comme par hasard, les études scientifiques qu'on vous demande pour déposer un brevet sont les mêmes que celles qu'on vous demande pour l'autorisation de mise sur le marché. Et donc aujourd'hui, on vous autorise des pesticides qui sont extrêmement dangereux, mais il y a des études scientifiques qui vous montrent qu'ils ne sont pas dangereux, et on vous interdit le purin d'ortie ou le vinaigre. Et nous, nous avons besoin de ça pour travailler. Si on va sur les semences, si on ne veut pas utiliser de produits chimiques pour homogénéiser les conditions de culture, les terroirs, etc., bien, il faut adapter nos plantes au terroir et à nos pratiques agricoles. Pour ça, il faut commencer par ressemer une partie de la récolte pour que génération après génération, nos plantes s'adaptent. Et là, on a des lois sur le brevet, par exemple, ou sur le certificat d'obtention végétale qui nous interdisent. Ou alors qu'ils vont nous demander de payer de l'argent. Et ces lois sur le brevet deviennent extrêmement perverses aujourd'hui, puisque aujourd'hui, vous allez déposer un brevet sur un caractère génétique d'une plante, mais qui va passer d'un champ à l'autre. Et donc, même mes propres semences vont être contaminées, pas par des OGM, par les brevets des champs voisins. Aujourd'hui, on cultive des variétés végétales où il y a des brevets qui ne sont pas OGM. Et ça va rentrer dans mon champ. Et même, on fait mieux, on dépose des brevets sur des caractères qui existent déjà dans mes plantes. Vous avez peut-être certains d'entre vous entendu parler du chou brocoli, de la tomate ridée, de la laitue résistante aux pucerons. Ce sont des caractères qui existent déjà, mais aujourd'hui, toutes les laitues résistantes aux pucerons appartiennent à une société hollandaise qui s'appelle Rijkswet, qui a eu un brevet sur la résistance des laitues aux pucerons. Et ça va plus loin. Nous utilisons beaucoup de micro-organismes. Quand vous faites du vin, vous utilisez des levures. Quand vous faites du fromage, vous utilisez des ferments lactiques. Quand vous faites du pain, vous utilisez des levains. On dépose des brevets sur les petits microbes qui sont là-dedans. Et à partir de là, du jour au lendemain, votre pain ne vous appartient plus. Ça devient une contrefaçon. Donc ça, si vous voulez, on a un système légal qui interdit, criminalise toutes les pratiques paysannes. Et je ne vous parle pas des échanges de semences où on nous a dit c'est interdit, vous n'avez pas le droit, etc. Alors, juste deux mots, je ne vais pas développer tout par rapport à la question que vous avez posée. La pratique du réseau semences paysannes, c'est de dire si on n'a pas le droit et que c'est légitime, on prend le gauche. Et c'est extrêmement intéressant la démarche qu'on a eue. On n'a pas le droit de vendre des légumes de variétés non inscrites, on nous a dit, au catalogue. On les a vendus et on a découvert qu'on avait le droit. C'est ça qui est assez intéressant. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Donc attention à la propagande, dont on appelle ça la publicité, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On nous a dit, vous n'avez pas le droit d'échanger des semences entre vous. Mais comment ils font, les industriels, pour avant d'inscrire une variété au catalogue, les semences ne sont pas inscrites, celles qu'ils échangent entre eux. Ils font de la recherche, ils font de la sélection. Est-ce qu'un paysan n'a pas le droit de faire de la recherche, n'a pas le droit de faire de la sélection? Et nous, on a dit, on fait de la sélection, on échange nos semences. Et puis là, quand il y avait un paysan tout seul, il avait un procès. Mais quand on a commencé à être quelques centaines, puis quelques milliers. Et aujourd'hui, nous avons, mais parce que nous l'avons d'abord inscrit dans la réalité, maintenant nous l'avons dans la loi, un article de loi qui dit que les paysans peuvent échanger leurs semences dans le cadre de l'entraide. De la même manière, vous avez pu apprendre quand on a occupé le GNIS, on a eu une loi qui a dit que les semences de ferme ne sont pas des contrefaçons, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas saisir nos récoltes, ce qui s'est passé en Colombie, des contrefaçons, 90 tonnes de riz à la décharge parce qu'une entreprise industrielle a demandé qu'elle soit saisie, c'était des contrefaçons. Nos semences, peut-être, ça restera illégal qu'on ne paye pas les royalties, mais au moins, ils ne pourront pas les foutre à la décharge. Et peut-être ils auront la peine à récupérer les royalties s'ils n'ont pas cette menace-là. On n'a pas tout gagné. Par contre, et là, je veux le souligner, quand on commence à parler de micro-organismes, de préparation naturelle et des brevets qu'il y a là-dessus, il y a la pharmacie derrière. Et le lobby pharmaceutique, peut-être, est encore plus puissant, malheureusement, que le lobby des pesticides et que le lobby des semences. Et là, on nous dit, non, vous allez pouvoir faire des produits de biocontrôle. Alors, soyons clairs, c'est quoi un produit de biocontrôle? Vous avez un arbre qui s'appelle le neem, qui pousse en Inde, qui pousse un petit peu sur la Côte d'Azur, mais beaucoup en Afrique, et qui, on fait de l'huile de neem, c'est vermifuge, les enfants l'avalent, c'est un vermifuge dans ces pays-là, et il nous sert aussi à lutter contre certains insectes sur les plantes. Ce produit n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, parce qu'on ne peut pas déposer un brevet, il est issu des savoirs populaires. On ne va pas déposer un brevet, sur nous on défend quand même les biens communs, ceux qui sont issus des savoirs populaires. Donc on n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. Il est vendu, mais de manière illégale. Par contre, la substance active de l'huile de neem, qui s'appelle l'azadaractine, elle a un brevet. Et donc, vous pouvez acheter les produits à base d'azadaractine qui sont qualifiés d'utilisables en agriculture biologique, alors qu'il est beaucoup plus simple de prendre des feuilles de neem, de les écraser. Oui, mais ça, c'est l'autonomie des paysans, prendre des feuilles de neem et les écraser. Alors qu'acheter un produit breveté, c'est mettre les paysans sous dépendance de l'industrie. Donc là, on a un exemple très concret des deux agroécologies qui sont en train de s'affronter aujourd'hui en France. Celle des produits biocontrôle, c'est peut-être plus bio, mais enfin bon, il y a aussi des molécules de synthèse dans les produits biocontrôle. Et celle qui est d'abord sur des pratiques qui garantissent l'autonomie du paysan dans son écosystème et dans son système social local. Un agriculteur qui commercialise sa récolte, pas le jardinier, pas l'éleveur qui a quelques chèvres pour sa propre consommation. Un agriculteur qui commercialise sa récolte n'a le droit d'utiliser de produits phytopharmaceutiques, donc de pesticides ou de produits alternatifs, genre purin d'ortie, et n'a le droit d'utiliser de produits vétérinaires que s'ils ont une autorisation de mise sur le marché. Et en cas d'absence sur le marché de produits indispensables pour soigner des animaux, ça existe pour les animaux, ça n'existe pas pour les plantes, il peut demander à son vétérinaire de lui prescrire une préparation magistrale, on appelle ça. Mais attends, si chaque fois que je vais soigner mes animaux avec des trucs aussi simples que des plantes médicinales, est-ce qu'il faudra que je demande à mon vétérinaire d'accorder à chacune de mes brebis, moi j'ai des brebis, j'ai eu des vaches, un permis de brouter? Mais c'est ça qu'on nous demande. Parce que non, moi, mes animaux, ils broutent des plantes médicinales tous les jours. En plus, dans les garrigues héroltaises, je vous garantis que des plantes médicinales, il y en a un paquet. C'est complètement interdit ce qu'elles font. Alors là, on ne me dit rien parce qu'elles le font tout seules. Mais attendez, mais vers où on va? C'est extrêmement dangereux, toutes ces plantes-là qui sont par terre. D'acheter des aliments qui viennent de soja d'Argentine OGM, c'est beaucoup moins dangereux, c'est évident. Aujourd'hui, la politique sanitaire, que ce soit pour les plantes ou pour les animaux, est décidée dans des comités régionaux, dans lesquels on a l'ordre du vétérinaire, l'Union des industries des pesticides, qui s'appelle de protection des plantes, hein, mais bon, appelez-le par leur vrai nom, l'industrie semencière, des coopératives agricoles qui vendent des semences, des produits vétérinaires et des produits phytopharmaceutiques, des dirigeants de syndicats qui dirigent des coopératives agricoles qui vendent des semences industrielles, des produits phytopharmaceutiques et des produits vétérinaires, et puis deux ou trois oiseaux perdus de la Confédération paysanne ou d'autres syndicats alternatifs. Elle est décidée à ce niveau-là. Donc qui décide de la politique sanitaire? Est-ce que c'est une politique publique ou est-ce que c'est la privatisation d'une politique publique?
On va s'écouter un morceau de Gérard Piron qui interprète en musique un poème de Gaston Goûtet, La paysanne.
La simple histoire chante en nos cœurs et nos cerveaux l'exquise douceur de la Loire et la bonté des vins nouveaux. Allons-nous esclaves placides dans un sillon où le sang lui resterait piétiné au bruit des Marseillaises fratricides. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, en des sillons plus larges et plus beaux. À la clarté des soirs sans voile, regardons en face les cieux, cimetières fleuris d'étoiles où nous enterrerons les dieux. Car il faudra qu'on les enterre, ces dieux féroces et maudits qui, sous espoir de paradis, firent de l'enfer sur la terre. En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons. Ne déversons plus l'anathème en gestes grotesques et fous sur tous ceux qui disent je t'aime dans un autre patois que nous. Et méprisons la gloire immonde des héros couverts de lauriers, ces assassins, ces flibustiers qui terrorisèrent le monde. En route, mon noblé, soignons nos souches, que l'or nourricier du soleil emplisse pour toutes nos bouches les piblons, le raisin vermeil. Et seule guerre nécessaire, faisons la guerre au capital, puisque son or, soleil du mal, ne fait germer que la misère. En route, allons les gars, jetons.
C'est toujours dans l'émission Les paysans et les paysannes dans la lutte des classes. On écoute maintenant Sylvia Pérez-Vitoria qui intervient sur les milieux de la recherche agronomique et la façon dont ils se sont réappropriés l'agroécologie pour reverdir le modèle d'agriculture intensive.
Alors, moi je pense que dans cet engouement auquel on assiste actuellement sur l'agroécologie, il y a un enjeu très important pour la recherche. Pourquoi ? Parce que... et en particulier pour la recherche agronomique, parce que ils sont obligés de constater, il y a des rapports et des rapports et des rapports et des rapports qui sortent, qui montrent les dégâts considérables qu'a fait l'agriculture industrielle et donc qu'a fait cette recherche qui a accompagné pendant très longtemps cette agriculture industrielle. Ce qu'a fait une communauté scientifique qui est depuis très longtemps acquise à une priorité qui doit être donnée à l'économie de marché, qui doit être donnée au progrès technologique, à l'augmentation des rendements, on est obligé de constater. Et ils sont obligés de constater. Et donc, la manière dont l'agroécologie est appréhendée actuellement par les milieux de la recherche, la plupart des milieux de la recherche, qui conseillent, il faut le dire, le ministère de l'Agriculture, c'est une manière de reverdir ce qu'ils font en gardant la main. Et je pense que des notions comme l'agriculture écologiquement intensive, qui a été lancée comme une idée absolument géniale, n'est pas autre chose. Hein. Ou la révolution doublement verte, moi je me rappelle que j'étais à une réunion de la FAO, où cette notion de révolution doublement verte, derrière, il y avait les OGM. Après, on l'a reconverti et c'est devenu agriculture écologiquement intensive. Mais c'est une manière pour les milieux de la recherche de garder la main tout en se donnant une couverture environnementale, écologique, etc., etc. En fait, sans rien changer de fondamental. En fait, la recherche dans la démarche d'agroécologie paysanne est tout autre. On l'a vu d'ailleurs tout au long de ces interventions, l'agroécologie, elle n'est pas qu'un aspect technique, elle a des dimensions politiques, elle a des dimensions sociales, elle a des dimensions économiques, elle a des dimensions globales. Donc ça, c'est déjà très important, parce que ça veut dire que les disciplines qui vont être mobilisées, c'est pas uniquement l'agronomie. Hein. Et historiquement, l'agroécologie, elle s'est constituée avec des apports bien sûr d'agronomes, mais aussi d'écologues, mais aussi d'historiens, mais aussi d'anthropologues, mais aussi de sociologues, mais aussi d'économistes. Donc, si vous voulez, c'est d'emblée l'agroécologie qu'il faut penser comme une démarche, et non pas comme un aboutissement ou comme un modèle, mais comme une démarche. On va vers... Elle est construite dans cette pluridisciplinarité et dans cette multidisciplinarité. Et ça, je veux bien reconnaître que c'est très difficile. C'est très difficile de travailler... Moi, je me suis pas présentée, mais entre autres choses, ça fait pas mal d'années que je fais des recherches sur les questions agricoles et questions paysannes. C'est vrai que c'est très difficile d'allier des sciences dures et des sciences sociales, que c'est très difficile de travailler de manière comme ça, disons, conjointe. Mais en tout cas, c'est ça l'agroécologie. On a plus parlé d'ailleurs de discipline hybride, c'est-à-dire comment on peut à la fois travailler avec de l'écologie et de l'histoire ou de l'anthropologie, comment on produit en fait des nouvelles disciplines autour de cette notion d'agroécologie. Alors ça veut dire qu'au plan pratique comme au plan théorique, passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture agroécologique, c'est pas simplement passer d'une production conventionnelle à une production bio. Bon, ça suppose, il faut se plonger dans l'histoire agronomique d'une région, dans son histoire, dans ses relations sociales, dans tout ce qui l'entoure, dans les pouvoirs qui agissent dessus, les pouvoirs de marché, les pouvoirs politiques, les politiques publiques. Vous voyez, c'est une vision tout à fait globale. Mais surtout, l'agroécologie, elle procède aussi à ce que je pourrais appeler une rupture épistémologique, dans le sens où elle va reconnaître des savoirs et des savoir-faire qui, traditionnellement, ont été complètement méprisés par la recherche, à savoir les savoirs locaux, les savoirs des paysans, les savoirs des peuples indigènes. Et ça, cette reconnaissance-là, c'est une véritable rupture. C'est une véritable rupture par rapport à des habitudes qui consistent à séparer les deux, à considérer qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, qu'il y en a une supérieure à l'autre, etc. Même si elle a fait la preuve, en fait, des dégâts, hein, j'ai dit tout à l'heure, des dégâts qu'elle avait produits. Et d'autre part, l'articulation avec les mouvements paysans est une donnée aussi très importante, et elle est d'autant plus importante que, comme un peu l'a expliqué Guy, ces mouvements paysans sont en train de s'organiser pour réfléchir sur leur propre recherche, pour retransmettre leur propre recherche. Et donc il y a des écoles, effectivement, de formation à l'agroécologie qui sont en train de se créer un peu partout, en Amérique latine beaucoup, mais également en Asie, mais également en Afrique. Et donc, il y a plus simplement un paysan dans un coin qui est en train, avec lequel on va expérimenter, mais il y a une véritable réflexion collective qui est menée autour de la recherche et qui est une recherche alternative, qui est une pratique alternative. Et donc ça, je crois que c'est une donnée complètement nouvelle, complètement importante, que la recherche va avoir beaucoup de mal à intégrer, et qui a beaucoup de mal à intégrer d'ailleurs. Alors, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer, si vous voulez, dans les milieux de la recherche en agroécologie, c'est que pour l'instant, c'est un catalogue de recettes techniques. Voilà, c'est ce qu'on enseigne actuellement en agroécologie. Ce qui veut dire que derrière ça, il va falloir repenser la formation des chercheurs d'une manière différente. Bon, moi, je peux donner l'exemple que je connais bien, qui est la formation qui est donnée en Espagne à l'Institut de sociologie et d'études paysannes, qui est une formation totalement pluridisciplinaire, où viennent des écologues, où viennent des historiens. Une formation qui n'existe absolument pas ailleurs, d'ailleurs, en tout cas pas en Europe. Donc, vous voyez, et qui est très compliquée à monter, hein, qui a été très compliquée à monter, et qui évolue sans arrêt, qui est extrêmement aussi vivante qu'est la nature. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'en fait, ces chercheurs, ils évoluent eux-mêmes, et donc tous les ans, quand ils se retrouvent avec des étudiants, eh bien, à chaque fois, il y a une pensée qui évolue et qui se reconstitue et qui se recrée, etc. Mais je peux aussi donner un autre exemple dans les pays du Sud, au Brésil, par exemple. Les techniciens agricoles qui travaillent avec, vous savez peut-être pas, mais il y a deux ministères de l'agriculture au Brésil. Donc, celui qui fait de l'agroécologie, qui s'appelle développement agricole, il a formé des techniciens agricoles spécialement pour reconnaître le fait qu'il y ait des savoirs paysans et qu'il faut travailler différemment avec les paysans que ne travaillent les techniciens qui font la vulgarisation agricole traditionnelle. Donc vous voyez, il y a tout un travail de recherche derrière. Et puis je voudrais terminer sur une condition absolument incontournable, enfin de mon point de vue, et pas uniquement du mien d'ailleurs, en ce qui concerne la recherche en agroécologie, c'est l'engagement. Un chercheur doit être engagé, et la société scientifique d'agroécologie la plus importante, qui est celle d'Amérique latine, qui s'appelle SOCLA, a dans sa charte un article qui spécifie que les savoirs scientifiques doivent être mis au service des mouvements paysans et des mouvements sociaux pour proposer, pour soutenir des alternatives à l'agriculture industrielle. Donc vous voyez qu'on est là dans un engagement très fort, un engagement politique, et qu'on est très très loin de ce qu'on peut avoir dans nos organismes de recherche. Bon, voilà, donc je termine simplement pour dire que le parcours est long et difficile. Et que pour développer des recherches, parce que l'agroécologie, maintenant qu'il est récupéré par les mouvements paysans, est un outil de transformation sociale, et qu'une recherche qui veut se mettre à la disposition d'une centralité donnée à la paysannerie, et une paysannerie diversifiée et nombreuse, au démantèlement de l'agriculture industrielle, à une relocalisation de la production et des échanges, et un dialogue des savoirs, c'est un long chemin qui nous reste à tracer. Je vous remercie.
Voilà, c'en est fini pour les interventions du collectif pour une agroécologie paysanne. On vous propose d'écouter maintenant la lecture à plusieurs voix du texte de Yannick Ogor, éleveur de brebis qui refuse le puçage de son troupeau.
Lettre ouverte à ceux qui ne sont responsables de rien, mais qui ont pour mission de gérer l'approvisionnement alimentaire des masses. Au sujet de l'identification électronique des petits ruminants, et plus généralement, de la traçabilité des denrées alimentaires. Mesdames, Messieurs, les administrateurs du bien public, je viens de subir, ce mercredi 11 juin 2014, un quatrième contrôle en 5 ans par les services délégués à l'Agence des services et des paiements, ASP, pour le compte de l'administration agricole française concernant la conduite de mes troupeaux de brebis et de vaches. Compte tenu de la fréquence habituelle des contrôles dans les fermes françaises, reconnues statistiquement comme se répétant en moyenne une fois tous les 10 ans sur une même ferme, il serait sans doute de bon ton d'épingler le scandale d'un acharnement à mon égard, où l'on voudrait discerner une volonté politique de me mettre au pas de manière discriminante. D'autant que les contrôles précédents avaient donné l'occasion à l'administration de mesurer à quel point j'étais réticent à me conformer aux exigences de bonnes pratiques en matière d'alimentation industrielle des masses de consommateurs. Je m'empresse de lever immédiatement un éventuel malentendu et les quelques inquiétudes qui menaceraient de vous assaillir. Je ne voudrais pas laisser croire que l'administration française serait noyautée par quelques humains zélés qui feraient preuve d'un libre arbitre propre à orienter leurs actes sur la base de critères autres que la froide application de règlements. Vous nous avez trop systématiquement serinés que vous étiez de simples exécutants et que vous n'étiez responsable de rien pour ne pas vous prendre au mot. Cette lettre ouverte est donc de son époque. Elle ne s'adresse à personne, seulement à une machine sociale chargée de gérer nos vies concernant les modalités de bonne alimentation du cheptel humain. Vous le savez comme moi qu'il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a que de la bonne ou de la mauvaise gestion pour garantir la protection des populations et la cohésion sociale. Vous serez donc heureux d'apprendre que la contrôleuse que j'ai été forcée d'accueillir sur ma ferme a fait l'objet d'un traitement cordial comme nous sommes invités à le faire dans votre guide des bonnes pratiques des contrôlés. Mais je dois vous l'avouer, cette cordialité s'est faite à mon corps défendant. Je suis encore partiellement de la vieille école. Ma conformation à l'esprit gestionnaire n'est pas encore totalement aboutie. Mes insatisfactions me laissent encore bien trop souvent enclin à un sentiment de colère, voire de révolte, difficile à contenir. Et je voudrais voir encore partout des ennemis. Là encore, rassurez-vous, les dispositifs sont performants. C'est une très bonne idée et parfaitement ajustée d'inciter les contrôleurs à ne jamais s'informer quant aux sanctions financières ou pénales des manquements au respect de la réglementation. Défait de tout scrupule ou d'éventuels reliquats de sentiments de responsabilité et donc de culpabilité, l'exécution de la tâche en est grandement facilitée. Et il est bien difficile de trouver en ces personnes des victimes expiatoires de notre rage.
J'avais décidé que ce contrôle serait pour moi l'occasion d'une affirmation politique de refus de me soumettre à l'obligation d'affubler les oreilles de mes brebis de puces électroniques, et plus généralement à toutes les normes garantissant ce que vous nommez « traçabilité ». Pour cette raison, j'ai accueilli la contrôleuse en compagnie d'une vingtaine de personnes venues, en solidarité, affirmer avec moi ce refus. Le problème, dont je viens vous faire part par la présente, et que tout s'est malheureusement bien passé. La contrôleuse a ainsi pu constater, avec son sourire cordial et innocent, que je ne respectais en rien les modalités du dispositif de traçabilité. Aucun étiquetage adéquat d'aucun des animaux, aucun bordereau de circulation des animaux qui ont quitté la ferme, aucune facture, pas de cahier d'élevage, ni d'agnelage, etc., etc. Tout s'est bien passé, puisque mon activité, mes brebis et moi-même sommes désormais affublés d'un 100% d'anomalie. Reste désormais à la froide machinerie sociale qu'est l'administration agricole de donner la suite méritée en termes de sanctions. Le logiciel chargé de cette fonction ne manquera pas de supprimer l'intégralité de mes primes européennes, c'est-à-dire l'intégralité de mon modeste revenu, et des poursuites pénales exigeront peut-être quelques menues amendes. Ma mauvaise volonté flagrante est un aveu de trop mauvaise gestion des risques alimentaires pour que vous permettiez à un quelconque consommateur de prendre le risque d'avaler une viande si peu conforme. Je comprends fort bien vos soucis. Trop de scandales alimentaires ont épinglé l'ensemble des maillons de la filière alimentaire, l'administration elle-même, pour manquement à leurs obligations. N'étant responsable de rien quand vous faites bien votre travail, Il serait dommage que vous le deveniez pour ne pas l'avoir fait comme il se doit. Je partage en effet également le souci du travail bien fait. Mais, à la différence de vous, j'y ajoute en sus deux autres soucis. Celui d'une recherche d'autonomie dans la manière de mener ma vie et celui d'un sentiment de responsabilité à l'égard de mes faits et gestes. Je ne parle par ici de responsabilité républicaine qui doit amener chacun à respecter les règles communes pour le bon fonctionnement de la société, mais de cette responsabilité qui exige chaque jour une attention aux êtres qui nous entourent, sans cesse stimulée par une autre exigence, celle d'enrichir les liens qui nous unissent. Cette dernière exigence ne vous parlera peut-être pas. Elle fait référence à d'antiques dispositions humaines, d'avant la société totale réduite à un système de gestion. Je parle d'une époque où le paysan n'était pas qu'une fonction dans un système d'alimentation des masses, et où les brebis n'avaient pas que pour fonction de fournir de la viande. Je conviendrai avec vous que dans ces temps-là, on ne manquait sans doute pas de souffrir d'indigestion, au moins autant qu'aujourd'hui. Mais dans ces temps où la publicité ne berçait personne de l'illusion qu'une société totale pourrait maîtriser l'ensemble du processus d'alimentation des masses, on pouvait encore éprouver, sans garantie, un sentiment de liberté. Celui-ci, je vous le jure, parce qu'il m'arrive encore de l'éprouver, produit des conséquences étranges. Non pas celle de ne penser qu'à soi et à son propre confort, au détriment éventuellement des autres, mais le sentiment d'être pris dans des relations et d'y prendre soin, parce qu'elles sont les conditions de ce sentiment de liberté. À cette époque, on ne parlait pas, par exemple, de bien-être animal. Prendre soin, ce n'était pas répondre aux exigences de fonctionnalité productive d'un organisme pour accroître sa productivité. Vous le croirez ou pas, mais parfois, il s'agissait même d'y prendre du plaisir. Pire même, parfois, il s'agissait de ne rien faire, de laisser les animaux vivre sans nous, sans nos exigences, au moins quelques heures, voire quelques jours. Parfois même, mais là, j'ai peur de susciter l'incrédulité de votre part, on pouvait même faire confiance à des connaissances intuitives et empiriques pour façonner des relations avec des animaux d'élevage. Maintenant que votre incrédulité est atteinte, allez, je m'autorise à toutes les excentricités. À une époque, il paraît qu'on élevait également les enfants de la sorte. Rappelez-vous, c'était l'époque où l'encadrement éducatif, social, sanitaire, psychologique, pénal n'avait pas atteint son ambition de reproduction de citoyens conformes aux exigences d'un État capitaliste.
Vous me rétorquerez aisément que mes références posent problème, parce que cet ancien monde n'offrait aucune garantie et qu'il était en proie à la sauvagerie, chacun défendant ses intérêts avant l'intérêt commun. Certains ont théorisé cet état positivement ou négativement en le nommant « libéralisme ». Vous ajouterez que l'État, en tant que système de gestion des masses, est justement l'instance qui empêche de laisser libre cours à cette liberté sauvage et qui garantit le bien commun. Mais en parlant de la sorte de liberté, vous la réduisez à la liberté d'entreprise. Ce n'est d'une part pas de cela dont je parle, et vous êtes par ailleurs bien placé pour constater que l'État n'est pas l'instance castratrice de cette liberté d'entreprise, mais bien plus l'instance qui a autorisé sa prolifération et protégé les salauds qui en tiraient profit. C'était l'instance suprême qui organisait la domination des masses administrées. Mais vous avez raison, nous ne sommes plus là. À cette époque, on y trouvait encore de bonnes raisons pour assassiner un chef d'État, parce que sa responsabilité dans la gestion de la domination était criante. À part quelques actes de folie, on imagine mal M. Hollande, par exemple, susciter un tel sentiment de rage autorisant de telles conséquences. Il n'y a guère plus que les juges et procureurs, qui au sein de l'appareil d'État ont encore l'occasion de susciter de tels sentiments. La révolte ne gronde manifestement pas assez pour qu'un sort adéquat leur soit réservé. Accepter de n'être qu'une fonction ou un paramètre dans un système de gestion des masses a cet avantage de ne plus pouvoir y déceler d'ennemis. Il n'y a que des fonctions et des paramètres. Il n'y a même plus à y négocier quoi que ce soit. Vos amis syndicalistes, sous-traitants de l'administration, l'ont bien compris. Il n'y a plus qu'à procéder à des ajustements de circonstances.
Mais contrairement à vous, je ne m'en satisfais pas. S'il n'y a plus d'ennemis, toutes les raisons sont restées intactes pour en avoir. C'est bien le problème. Injustice, inégalité, humiliation, exploitation, mépris, écrasement sont toujours d'actualité. Votre chance, vous qui êtes du bon côté du manche, est que ces états de fait ne semblent plus ressentis à leur juste appréciation. Pour les ressentir pleinement, il faut être encore attaché à la liberté. Et cet attachement semble faire défaut. Un plus grand impératif semble conduire les comportements dans une société moderne. La survie de la société telle qu'elle est. Pour cela, un seul horizon est convoqué et semble obtenir l'adhésion. La gestion. La gestion n'est pas seulement un mode de gouvernance où tout doit être calculé, mesuré, évalué, surveillé, contrôlé, réglementé, réprimé, pénalisé. Cela est le scandale de l'existence de l'État depuis sa naissance. La nouveauté n'est pas une longue histoire, et que cette gestion ne tient pas plus tant des dispositifs que par des dispositions. Que chacun, à force de ne voir se dégager aucun autre horizon, s'est résigné à mener sa vie sous le mode gestionnaire. Pas seulement en laissant gérer sa vie par d'autres instances, telles que l'État et l'industrie, mais également en prétendant gérer sa vie. Comme l'État gère ses administrés, l'administré gère son temps, ses enfants, ses relations amoureuses, son potentiel santé. De sorte qu'il n'y a plus aucun contraste entre les exigences d'un État et celui d'un individu. Silence, on gère. Un éleveur gère son troupeau, ou plutôt faudrait-il dire gère son stock de viande sur pattes, ou encore gère son potentiel de biodiversité, dans la version écologiste de la gestion bien sûr. La gestion, c'est l'extinction de la vie. C'est substituer la communication à l'attention, substituer l'échange à la relation, substituer l'efficacité à l'intensité, substituer la programmation à l'imprévu, substituer le pragmatisme à la nécessité, substituer l'authenticité à la beauté, substituer la survie à la simple existence. Dans la région de Fukushima, comme de Tchernobyl, prendre soin de soi passe désormais par gérer des becquerels. La vie se décompte. Plus sûrement encore que la radioactivité, ces dispositions gestionnaires pénètrent nos chairs, nos cerveaux. Le mal est profond. Avec un brin de lucidité, vous auriez même raison de considérer cette lettre comme le résultat d'une gestion de ma haine, de ma rage. Il y a en effet une forme de calcul et donc d'abdication dans le fait de vous laisser continuer à gérer nos affaires sans que vous en subissiez les conséquences. En attendant que d'autres, avec moi, deviennent votre cauchemar, il ne reste qu'une petite issue. Me désaffilier. Je ne vous laisserai pas une énième victoire en vous octroyant la possibilité de m'interdire d'être éleveur. Il me reste encore quelques dignités pour entamer à ce jour ma disparition en tant qu'éleveur administré. C'est la condition pour continuer à espérer un jour être paysan. Je ne vous invite pas à un méchoui pour fêter ça. Au mieux, vous risqueriez l'indigestion avec une viande non tracée. Au pire, la viande d'administrateur n'est pas bonne à manger. La colère se cultive sans prime, se répand sans traçabilité et se pratique sans identification électronique. Yannick Ogor, éleveur de brebis en voie de disparition administrative. C'était une lettre ouverte à ceux qui ne sont responsables de rien, mais qui ont pour mission de gérer l'approvisionnement alimentaire des masses.
Pour réécouter cette émission, vous pouvez télécharger dans les prochains jours le fichier lié sur le blog de l'émission. http://blogs.radiocanu.org/lutte-paysanne.
Le paysan, il a un statut, quelque sorte de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a une condition qui est celle des salariés.
Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour de moins, une ferme par jour de moins. Voilà. Mais tout cela parce que on défend l'agriculture de type capitaliste et nous, on nous laisse, il n'a pas à mourir.
Il y a trop de gens autour de nous qui continuent à tout ça.
d'être propriétaire, en toute logique. C'est d'avoir un outil de production.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.